J'ai une journée marathon, comme on pourrait dire en ce moment. Ça va bien. Je viens tout juste de terminer l'enregistrement d'un podcast. J'en commence un autre. C'est ce qu'on fait au Club École. On ne chôme pas et on n'arrête pas.
Non.
On continue à 100%, surtout dans des belles journées comme ça. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la reprise vidéo. C'est pas à vous que je parle. C'est aux gens à la maison qui nous écoutent. Vous autres, vous n'êtes pas encore là. Regarde. Je vais même vous sortir du stream tellement vous êtes gosses. Hein. Et là, on ne peut plus les entendre. C'est vraiment le fun. Reprise vidéo, d'habitude, ça sort le samedi. Aujourd'hui, on est mercredi. Qu'est-ce qu'on fait là? Daphné et moi, on se parlait hier, donc mardi. Donc, pour le moment où on enregistre, on se parlait. Puis, on se disait, Daphné est en congé. Moi aussi, on s'est dit, on pourrait faire une reprise vidéo. Tu sais, on aime ça, pourquoi pas? C'est tranquille, relax. Ouais, pourquoi pas? OK. Ça qu'on a regardé quel film on pourrait faire ou une série télé. On a aimé ça la dernière fois. Puis j'ai eu la brillante idée. Là, j'ai vraiment eu un flash en regardant la banque de films de sport sur Disney+. J'ai dit, on fait Cars. Oui, messieurs, dames, le dessin animé de NASCAR... Les bagnoles en français avec Flash McQueen et toute sa bande. Cars. Là, Daphné m'a regardé les étoiles dans les yeux en disant « Oh my God, oui! » on savait que c'était un gros, donc on s'est dit « Ben là, ça serait plate qu'on le fasse juste nous-mêmes sans le proposer à personne. » Donc, on a écrit à tout le monde du Club École « Hey, s'il y a quelqu'un qui veut venir à la dernière minute faire un podcast sur Cars, c'est ce soir que ça se passe. » Et Thomas a décidé de venir célébrer sa fête avec nous ce soir. Salut, Tom.
Salut.
Bonne fête.
Merci. Bonne fête, Tom. Je suis contente que tu soulignes à quel point c'était dernière minute et à quel point j'étais contente de faire un podcast sur ce film-là. Ça a vraiment fait ma journée de réécouter ce film-là qui me rappelle mon... Non, mais sérieusement, j'étais tellement contente de réécouter ça. Ça me rappelle mon enfance. Je l'ai écouté au cinéma la première fois. On a vérifié, j'avais 4 ans la première fois que j'ai vu ce film-là. Donc, j'ai vraiment eu toute l'expérience. Là, dans un des premiers films que j'ai vu au cinéma, d'ailleurs. Alors, moi vraiment, aussi. Ça me ramène en arrière. Et après, bon, je l'ai réécouté chez moi, avec ma famille. Et... Vraiment un film, je trouve, inspirant et pas cliché du tout. Pas redondant. Très, très bon film pour ma part. Donc, vraiment. Alors, les étoiles dans les yeux, effectivement, c'était bel et bien ça. Tu l'as bien décrit, Johan.
Ben, je le sais, j'étais là.
Moi aussi, c'était un des films classiques de mon enfance. Moi, j'ai été voir. C'est un des premiers films que j'ai été voir au cinéma. On en parlait hors d'ordre, mais un de mes films préférés de mon enfance avec des incroyables également. J'étais très content du choix de film.
J'ai une question. Est-ce que c'est le premier film dessin animé qu'on fait à reprise vidéo?
Oui.
Une première, vraiment, aujourd'hui, c'est une journée faite à Thomas, un podcast sur un film d'animation.
L'horaire par rapport. qui l'eût cru qu'on se retrouverait un jour dans un rôle de journaliste à parler d'un film de Pixar?
Pour vrai, c'est certain que je partage ce podcast. Après l'enregistrement.
Pas le choix.
Pour revenir au film comme tel, je connais personne. En tout cas, probablement que je connais des gens qui ne l'ont pas aimé, mais il n'y a personne qui m'a jamais dit, des gens de notre génération, qu'il ou elle n'avait pas aimé ce film.
Mm-hmm. C'est un classique.
Un classique. C'est bon. Et ce que j'apprécie aussi, c'est... Puis ça, on n'en parle pas beaucoup dans... habituellement, surtout pas dans les films d'animation, mais en général, à reprise vidéo, ça arrive des fois qu'on n'en parle pas tant que ça. Le volet sportif du truc, la course comme telle est quand même bonne. La portion sport du film est vraiment solide et très bien réussie.
Oui, très nuancée aussi.
Particulièrement réaliste, mais quand même bien et intéressante à regarder. Et nous garde...
Johan, je t'arrête là-dessus. Pas réaliste. Le film est au complet pas réaliste. On parle ici de voitures vivantes. Donc, Je pense que la section
ouais,
réaliste.
Mais même là.
Ce ne sera pas tout à fait ça le but principal du truc. Alors, personnellement, moi, ça ne m'a pas du tout dérangé que ce soit plus ou moins réaliste,
non,
ce film-là.
Exact. Non, c'est ça, un film pour enfants. C'est fait. Ça ne dérange pas que ce ne soit pas réaliste. Mais ce que je trouve, en fait, c'est que malgré le fait que ce ne soit pas réaliste, ça reste bon. Mm-hmm. Et ça reste du divertissement très agréable et très, très bien réussi à tous les niveaux. Donc, moi aussi, un film que j'apprécie beaucoup. Et ils en ont fait deux autres aussi, des Cars. Le 2 qui est ridiculement différent. Moi, personnellement, pas mon film d'animation préféré. Là, un film que j'ai pas particulièrement apprécié. Mais le 3, j'ai trouvé très solide, très bon aussi.
Le 3, je ne l'ai jamais vu encore.
Ah, vous deux, vous ne l'avez pas vu, le 3?
J'admets que je l'ai appris tantôt qu'il y avait un 3. Le 2, j'étais au courant, je l'ai vu plusieurs fois, mais je n'étais pas au courant pour le 3. Donc, dans ma liste de films à ajouter que je dois écouter.
Il est bon, le 3. Ce n'est pas le film du siècle, puis c'est pas le 1, mais c'est meilleur que le 2.
Le 1, dans ce genre de film-là, c'est toujours le 1, très souvent le meilleur.
C'est un peu comme la série des Transformers. Le 1 était excellent, le 2 était pas très bon, le 3 était solide, meilleur que le 2. On parlera pas du reste.
Mais pour revenir à Cars, le 2, c'est parce que c'est une histoire complètement différente.
Ouais,
on était rendu avec Mater qui était un espion international. Écoute, je vois pas de lien.
Non, Mater est plus le personnage principal du deuxième film. C'est plus centré sur lui. Puis même la portion course est presque totalement disparue là, dans le deuxième. Donc, ouais, c'est en ça. Effet. Mais ça reste, faut le voir. Ça reste agréable à écouter. C'est pas un navet. C'est juste moins bon que le 1. On va passer à nos prix pour rentrer là-dedans. Avec le prix Taylor Swift remis à la scène ou au moment qui a le plus joué avec vos émotions, il y en a beaucoup des scènes qui sont faites pour nous faire brailler dans ce film-là. Je ne sais pas ce que vous avez choisi. Moi, j'ai été avec de quoi d'un petit peu spécial. C'est que je vais vous laisser y aller en premier, à commencer avec Thomas. Quelle scène est-ce que tu avais choisi pour ce prix-là?
C'était pas une scène très émotive dans le film. Mais moi, c'est la scène de Life is an Highway. Écoute, ça m'a totalement ramené en enfance de réécouter cette scène-là. Je pense que c'est la scène la plus mémorable de Cars avec le recul, selon moi. Donc, je me suis comme senti tout nostalgique. C'est venu me chercher.
Ça, tu sais, il y a des films comme ça que la chanson reste. Et même quand on pense plus au film, cette chanson-là, Life is a Highway, c'est pas une tune qui a été, c'est pas une chanson qui a été écrite pour Cars. La version de Rascal Flatts l'a été, mais c'est une vieille chanson, mais qui est ô combien revenue à la mode. Et aujourd'hui, va voir quelqu'un, surtout de notre génération, qui a vu Cars, demande-lui la chanson qu'il va mettre dans la voiture pour un road trip. C'est presque unanime.
C'est sûr que c'est ça.
En tout cas, très, très d'accord. Ça te ramène en enfance et moi, toutes les fois que j'entends Life is a Highway, je ne peux m'empêcher de penser à Mac qui roule sur l'auto.
Oui.
Si je peux ajouter, moi, quand j'étais petit, je me rappelle, je chantais cette chanson-là, je chantais aucunement les bonnes paroles. Me rappelle que je chantais cette chanson-là. Peu importe ce que je disais.
Croche à un moment donné.
Non, oh, je la chantais tout croche. Là, je m'en suis rendu compte en vieillissant, mais je la sentais vraiment tout croche. Mais c'était pas grave, j'étais heureuse de chanter ça. Vraiment. Et je trouvais ça bon.
Ben, c'est bon. Moi, honnêtement, je suis du genre à dire que l'original est souvent meilleur, surtout dans les chansons, mais j'aime beaucoup mieux la version de Rascal Flatts que la version de Tom Cochran.
Vraiment excellente, la version de Rascal Flatts. Oui.
Ah, c'est
moi, avec
quoi?
Oui, c'est ce que tu allais me dire. Mais moi, c'est vraiment différent de toi, Thomas, parce que toi, tu as vraiment été avec plus le côté émotif de la chanson. Moi, en fait, c'est la scène que j'ai pris, c'est la course finale. La raison pour laquelle j'ai pris la course finale, oui, ça semble cliché, mais je vais me justifier, c'est que j'avais tellement de difficultés à trouver le moment. Il y avait trop de moments que je trouvais qui me ramenaient en enfance ou que je trouvais vraiment bon. Et je trouve que la course finale, ça incarne bien l'accumulation de tous ces moments-là. Parce que quand on pense, par exemple, juste au fait que, bon, Mater, la petite remorqueuse, lui a appris à McQueen à reculer. Il utilise ça durant sa course. Il utilise aussi le drift que Doc lui a enseigné. Donc, c'est comme une sorte de je dirais, de moment où tout ce qu'il a appris durant le film, toute la philosophie qui s'est incarnée, son évolution en tant que voiture, je peux pas dire en tant que personne dans ce film-là, mais en tant que voiture, s'incarne à ce moment-là. Alors, c'est la raison pour laquelle, aussi, à la fin, lorsqu'il va récupérer de King, l'ancienne voiture, la voiture vétérante sur le circuit, et qui met une croix sur la Piston Cup qu'il aurait de toute évidence gagné, ça fait vraiment, ça montre à quel point il a évolué au cours du film, et c'est ce moment-là, moi, que je choisis justement à cause de ça.
Je dois juste faire une parenthèse parce que tu as parlé du drift, notamment, oui, qu'il a utilisé. On n'a pas le choix. Je pense qu'on n'a pas le choix de le faire. Je m'adresse aux conducteurs et aux conductrices de ce monde, particulièrement les gens de notre génération qui commencent peut-être à conduire, qui viennent d'obtenir leur permis. Essayez pas de tourner à droite pour aller à gauche.
Non.
Surtout pas dans les rues à Montréal. Faites pas ça. Ça marche pas. OK?
Malgré ce que Doc dit.
C'est un film de dessin animé, de course automobile.
Dans de la terre. Okay.
Mais
si tu tournes à droite, tu vas aller à droite, tu vas pas à gauche.
Bon, c'est un conducteur d'expérience là, qui vous parle.
Et c'est encore pire si tu dis, si tu tournes vraiment fort à droite, tu vas aller à gauche. Non.
Vraiment aller à droite.
Vraiment fort à droite, tu vas te ramasser dans un poteau. C'est ça qui va se passer.
Mais ouais, Johan Carrière, conducteur d'automobile d'expérience, écoutez-le.
C'est moi le pro de la Formule 1.
Oui, exactement. On devrait suivre tes conseils.
Ah, c'est ça. Écoute, j'ai presque la même chose pour la scène qui a le plus joué avec mes émotions, mais moi, c'est plus précis. C'est le moment où McQueen va chercher le King. Mm-hmm. Oui, parce que l'évolution du personnage et ce que ça représente, mais pour le côté esprit sportif aussi. Pour moi, le sport, c'est beaucoup plus que juste des médailles, c'est beaucoup plus que juste des trophées. Et quand je regarde la télévision, quand je regarde les images, quand je regarde des compétitions de sport, moi, les moments qui viennent me chercher le plus, c'est justement ces moments-là où les athlètes sont capables de mettre de côté la rivalité qu'ils ont avec leurs adversaires pour seulement faire preuve d'esprit sportif. Et c'est pour ça que je trouve ça ô combien important. Les poignées de main, par exemple, à la fin des séries de hockey, lors des séries éliminatoires, ou juste les petits gestes comme ça. On le voit souvent au tennis, il y en a beaucoup. De petits gestes comme ça. Pour moi, cet esprit sportif-là, c'est ce qui fait la beauté du sport. C'est l'âme du sport comme tel. Alors pour moi, c'était juste un beau moment. Outre juste le côté enfance, le côté nostalgie, le côté évolution et signification pour les deux personnages, c'était juste un beau moment de sport. Et ça a démontré à quel point McQueen était capable de s'élever au-dessus, encore une fois, du trophée. Et comme il dit, c'est juste une coupe vide.
Aussi, j'aime vraiment le fait que lorsqu'il voit le King vraiment tourner, tourbillonner dans les airs et atterrir de façon horrible, il revoit l'image du journal dans lequel le Doc a vécu exactement la même chose. Et là, c'est à ce moment-là qu'il comprend, OK, moi, je n'ai pas envie de gagner de cette façon-là, de gagner en sachant que lui, sa carrière va être terminée. Ben, de toute façon, c'était déjà prévu que sa carrière soit terminée, mais au moins de lui donner comme ce côté esprit sportif-là, je trouve que vraiment, non, c'était bien placé dans le film. Et surtout, ça enlève la fin cliché qu'il aurait fait gagner normalement. Ouais. Il aurait gagné avec tous les petits trucs qu'on lui a donnés, mais là, non, parce que ce qu'il a appris, c'était au-delà justement du sport, comme tu l'as mentionné. C'était aussi une question d'évolution personnelle, comme tu l'as dit. Là. Donc, vraiment,
et ça fait une belle leçon à transmettre.
Ça fait une très belle. Jeune. Oui, ce film-là sort des clichés justement avec cette leçon-là, je trouve.
C'est une victoire morale. Enfin.
Absolument. Puis comme il l'a dit aussi, pour revenir au flashback sur Doc, Doc n'a pas pu finir sa course, n'a pas pu finir sa carrière pour vrai. D'où ce que McQueen dit au King. Je crois que le King devrait finir sa dernière course. Voilà. McQueen est arrivé troisième dans cette course-là. Je fais juste dire ça comme ça. Et c'est lui qui connaîtra, spoilers pour Cars 3, c'est lui qui connaîtra la meilleure carrière entre lui et Chicks.
Oui.
Écoute, ça me donne le goût de l'écouter. Là. Moi, je prévois ça à l'horaire demain. Là.
Oui.
Hey, on devrait en faire un autre sur Cars 3.
Oh, regarde, hein, des fois.
On peut pas faire le 3 sans faire le 2. Puis je pense pas qu'Yohan, ça y tente de faire le 2.
Ben, ça me dérange pas de faire le 2, mais c'est parce que le 2, c'est pas un film de sport. Je suis désolé, mais c'est ça.
Film d'espionnage.
Le 1 est déjà un petit peu tiré par les cheveux, là, donc. On va se garder une petite gêne. On va enchaîner pour la scène la plus digne d'une reprise vidéo, la scène du film que vous pouvez regarder sans vous tanner. Je commence parce que je l'ai dit depuis le début de la journée que c'était ça ma scène, le pit stop. L'arrêt au puits de McQueen où ce que Guido lance les pneus dans les airs, fait les 4 pneus en un seul coup, sous les yeux de l'équipe des puits de Chick, qui en perdent leur moustache. C'est absolument incroyable. Cette scène-là, c'est vraiment une scène que je peux regarder over and over again sans jamais me tanner, qui est absolument incroyable. Et juste Guido qui, comme les cowboys, fait tourner son gun à pneu. Pit stop. Puis là, c'est absolument parfait. Ah, et ensuite, le reste de la scène, McQueen qui rentre, bat la voiture de sécurité de vitesse et la musique. Pour vrai, honnêtement, là, juste la musique de triomphe de gloire de Cars, là, ce thème-là est tellement bon. Je l'ai eu dans la tête toute la journée. Depuis le moment où on a parlé de cette scène-là, moi, j'ai cette musique-là, j'ai cette scène-là dans la tête. C'est juste absolument parfait, tout ce bel enchaînement. Guido là, qui build up ce moment-là tout au long du film, de dire que c'est son rêve de travailler sur une équipe de puits, d'être là, de changer les pneus d'une voiture. Là, tu le vois qu'il travaille un petit peu, qu'il se pratique, là, qu'il arrive, tout le monde rit de lui, il est tout seul, puis c'est juste lance les pneus dans les airs et règle les 4. Merci, bonsoir, McQueen est parti. C'est incroyable. Le pit stop le plus rapide de l'histoire. Wow.
Ce qui est beau avec ça, c'est le fait qu'il vient d'une petite ville. Moi, j'aime toujours ça, voir des... Ben là, je dis des athlètes, mais voir des gens performer lorsqu'ils viennent de petites villes. Tu sais, ça souligne un peu... Ça souligne un peu la petite ville inconnue. Ça donne une tribune à la petite ville.
Je te l'ai déjà dit plus tôt aujourd'hui, et je te le redis encore, il va falloir qu'on fasse un épisode de reprise vidéo sur McFarland.
On va en faire un prochainement.
Thomas, ta scène?
Ma scène, je vais y aller avec la scène d'entraînement où est-ce que Doc apprend à faire
tourner McQueen à droite pour aller à gauche.
À faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que visuellement, oui, c'est un dessin animé, mais visuellement, c'est très beau. Puis, c'est, encore une fois, c'est une scène qui m'a marqué quand j'étais petit. Puis, c'est je pourrais dire que c'est une autre scène que... En fait, le film au complet a été me chercher avec des émotions, mais cette scène-là, vraiment, c'est une très belle scène que j'ai vraiment beaucoup aimée.
Et Daphné, de ton côté?
Moi, j'ai presque pris la même scène que Thomas, mais j'ai pris un petit moment juste avant. En fait, j'ai pris le moment où McQueen rentre dans l'espèce de pièce à Doc et se rend compte qu'il a gagné et qu'il est un ancien champion justement de course. Et je trouve ce moment-là tellement satisfaisant. On sent le respect pour Doc qui augmente de comme 1000 échelons à ce moment-là, alors qu'il le méprisait au début. Et ça fait partie un peu de l'évolution aussi personnelle que McQueen va faire, de ne pas juger les gens au premier regard comme ça, parce que mais déjà, Doc, personne ne le sait qui fait de la course. Ça, je tiens à le préciser. Tout le monde, sa propre ville n'est pas au courant. Il cache ses trophées, il cache son expérience. Alors vraiment, ce moment-là où lui, il le découvre et son, son respect envers le doc devient beaucoup plus grand. Et là, il lui demande « Je veux avoir tes trucs, je veux savoir comment tu fais tel truc. » Il dit « Ben, je te l'ai déjà dit, là, il l'a pas écouté. » Donc, c'est comme un tournant quelque part, je dirais, ce moment-là, cette réalisation-là que McQueen fait. Alors moi, je l'ai vraiment... c'est un moment que je trouve satisfaisant à regarder. Ça, ouais. Ça lui montre en pleine face à quel point il faut pas prendre les apparences de premier regard. Il faut pas se fier au premier regard.
Ça montre aussi que la première fois que tu vois le film et tu vois ce moment-là, c'est OK, Doc, c'est plus que juste un vieux sage.
Oui.
C'est une légende du monde de la course. Il fait pas juste parler de logique. Là. Il sait qu'est-ce qu'il dit. C'est
monsieur Miyagi de ce film.
Ouais, c'est plus que le monsieur Miyagi, parce que monsieur Miyagi a jamais gagné de tournoi de karaté.
Non, mais c'est quand même le monsieur Miyagi mélangé avec des trophées et des Piston Cup.
Je te dirais, c'est le Daniel LaRusso dans Cobra Kai.
Effectivement, parce que là, il est rendu plus connu, et etc. Oui. Mais effectivement, je suis bien d'accord avec toi.
La citation du film, maintenant, quelle est la citation, ou un échange aussi, ça peut être un échange. Dans ce film-là, on a un très bel échange entre McQueen et Doc. Je ne sais pas si vous l'avez soulevé, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous avez sélectionné pour ce prix-là. Daphné, on va commencer avec toi.
Oui, moi, en fait, bon, encore une fois, j'étais déchirée entre plusieurs scènes et j'ai fini par choisir la scène où Sally et McQueen font du tourisme et se rendent à un endroit. Et là, Sally, elle dit, moi, je suis jamais partie. Elle explique un petit peu, moi, c'est l'échange un des échanges qui m'a le plus marqué parce que j'aime beaucoup voir l'évolution des personnages et ce moment-là que je vais vous nommer marque encore une fois un moment d'évolution dans la progression psychologique de McQueen. Et c'est au moment où, justement, Sally lui explique qu'elle est restée dans la petite ville, justement, parce qu'elle était tombée en amour. Et là, lui, comme, t'es tombée en amour avec quoi? Avec une Corvette. Il s'attendait à ce que ce soit genre une autre voiture, une voiture de luxe, ou etc. Et non, en fait, c'était simplement le paysage, la beauté de l'endroit, parce qu'elle, c'est dans ça qu'elle a trouvé son bonheur. Alors moi, je trouvais que ce moment-là était vraiment beau. Et ça a fait, encore une fois, réaliser à quel point dans la vie, c'était pas simplement le luxe qui est important, l'argent, la victoire, mais que parfois, prendre un moment calme, apprécier ce qu'on a, avoir une vie simple, mais bien, c'était quelque chose qui pouvait être très, 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 très agréable aussi, et juste de pouvoir admirer cette vue-là, pour elle, c'était suffisant. Et ils partagent ce moment-là ensemble aussi. Ils se rendent compte à quel point, lui aussi, il trouve ça beau. Et pourquoi est-ce que ces voitures-là manquent ça? T'sais, ils voient les petites autos en bas qui se promènent et manquent ce beau paysage-là que les deux regardent ensemble. Alors moi, cet échange-là, dans lequel McQueen réalise à quel point, effectivement, c'est une belle richesse, ce qu'ils ont devant les yeux, moi, c'est un moment que je trouve très beau et qui fait un tournant dans l'évolution du personnage de McQueen.
Oui, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à respecter Radiator Springs.
Oui, exactement.
Et les gens qui y habitent, et tu le vois.
La simplicité, il apprécie la simplicité. Parce qu'avant, lui, ce qu'il voulait, c'était flasher, paraître bien aux yeux de tout le monde, être populaire et tout. Et à un moment, il s'est dit, avoir une vie simple, parfois, il y a certaines personnes qui préfèrent ça. Une vie simple, mais paisible, hors de tout ce qui est l'apparence. Alors moi, vraiment, ça, c'est pour
surtout,
ça, là.
Il y a surtout des choses beaucoup plus importantes.
Exactement, les valeurs, mettre les valeurs à la bonne place.
Que les trophées, que la célébrité et tout ça. Puis, il y a une autre citation importante. Tom, je vais te laisser mentionner ta citation avant de revenir là-dessus parce que je ne veux pas te la voler. Puis moi, ce n'est pas la mienne. Ça fait que je veux juste entendre avant qu'est-ce que tu as à dire.
Ben, moi, ma citation, on l'avait pris. On en parlait plus tôt, mais le King mérite de finir sa dernière course. Ça, je trouve que, on en parlait en long et en large, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ça démontre vraiment à quel point que le personnage de Flash McQueen a évolué dans le film, je pense que tout a été dit sur cette scène-là, donc je ne m'étalerai pas là-dessus.
Il y a un échange sur lequel je veux revenir, là, justement, qui est l'échange entre McQueen et Doc, dans lequel là, tout ça, là, Doc lui dit à McQueen, « Nomme-moi une fois où tu as fait confiance à quelque chose d'autre que toi-même. » Puis une fois, puis genre, j'efface ce que j'ai dit, je te laisse t'en aller, puis toute l'équipe. Puis McQueen, il répond que les gens ne savent même pas il est qui. Fait que lui non plus, il n'est pas mieux, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben justement, Doc, il lui dit également, les gens à Radiator Springs, ce sont des bonnes personnes. Je ne peux pas te laisser leur faire du mal comme ça. Puis encore une fois, ça parle de à quel point il y a des choses plus importantes que juste la célébrité. Et je crois que Mater est le personnage qui aide le plus à faire comprendre ça à McQueen, mais aussi justement le reste de juste Radiator Springs, qui est une ville fantôme qui se tient tellement ensemble.
Une ville très unie.
Absolument.
Tellement unie.
C'est tellement beau. Et avec des personnages ridiculement différents les uns des autres. Il n'y en a pas un qui est ne serait-ce qu'un petit peu pareil aux autres.
Mais c'est une petite ville. C'est un petit village aussi que tout le monde se connaît. C'est comme qu'il y en a partout. Mm-hmm. Je pense que tout le monde pourrait se dire « Ah, c'est tel endroit, c'est tel village en Gaspésie, je sais pas. »
C'est là-bas. Mais... blague à part. Mais oui, effectivement. Puis c'est ça, ben McQueen qui décide finalement à la fin du film de rester là, carrément, et d'y établir ses quartiers généraux de course. Ma citation, pour moi, survient plus au début du film, et c'est ce qui, je pense, est le premier élément dans l'évolution et le changement de mentalité de McQueen. C'est à la fin de la course, de la toute première course dans laquelle il y a l'égalité à trois entre Chick McQueen et le King, et que le King lui dit, juste avant qu'il monte sur scène pour être annoncé comme triple gagnant, il lui dit, bon, j'ai pas les mots exacts, mais essentiellement, t'as autant de talent dans un boulon que la majorité des voitures en ont dans tout leur corps au complet, mais t'es stupide.
Ouais, c'est...
Très bien dit, très sage. C'est juste, ça te rentre dedans.
Ça représente aussi.
Tu le vois, McQueen. Oui, exactement. Mm-hmm. Tu le vois, McQueen qui est là. Ah ouais, ok, ouais, je pense. Mais t'es con. Pardon. Quoi? Inévitablement.
Mm-hmm.
Inévitablement. Peu importe à quel point tu es arrogant dans la vie, te faire dire ça, tu commences à te remettre en question. Ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Et c'est à partir de ce moment-là que McQueen commence à transiger un petit peu plus. Ça prend du temps.
Moi, si je peux ajouter quelque chose sur ça, je dirais que c'est pas le moment où il commence à faire sa transition, mais c'est le moment où on met le doigt sur ce qui doit changer pour véritablement gagner une course. Parce que moi, je trouve pas qu'il change avant un bon moment, là, ça prend du temps avant qu'il commence à changer.
Ça prend du temps avant qu'il change. Mais tu le vois que c'est la première fois
qu'il
réalise qu'il n'est pas parfait.
Oui. Et aussi, les gens étaient tous en admiration avec lui, donc personne n'osait lui dire rien. T'sais. Même les gens avec lesquels il était méchant, comme les vieilles voitures là, comme de sponsor là, ou qui devaient assister au meeting, là, il les méprisait vraiment. Là. Donc, personne n'osait jamais lui dire rien, sauf justement The King, qui a osé lui dire une parole. Et quand un champion comme ça dit une phrase qui évoque autant, je pense que c'était la première personne qui allait écouter, en fait. C'était la première personne que peut-être qui pourrait avoir une petite oreille envers ce qu'elle allait lui dire parce qu'il le considère. Il le tient en haute estime quand même.
Exactement. Autant il a de l'arrogance, autant il est prétentieux, autant il respecte quand même le King.
Oui, et le même respect qu'il avait, je dirais, envers le Doc, sauf que ça a pris un peu plus de temps parce qu'il ne savait pas qu'il était un champion de course, donc... Voilà, il n'y avait pas le même respect au début, mais The King, ça, c'était dès le début, là, il le respectait quand même. Il y avait quand même plusieurs victoires, une belle carrière. Alors, ouais, effectivement, c'était la bonne personne pour commencer, je dirais, ce processus psychologique-là.
Mais c'est drôle parce que dans le 3, c'est le neveu du King qui est là.
Ah!
Son neveu ou son petit-fils, je me souviens plus. En tout cas, il y a l'autre de cette famille-là qui est dans le trou aussi. C'est une relation assez intéressante. Puis là, c'est l'inverse qui est là. C'est McQueen qui est plus le mentor de l'autre. Donc,
mais c'est C'est lui là qui. C'est pas la recrue, là, tu sais.
Ah, exact. Bah. En tout cas, bref, vous regarderez ça. Cars 3, ça en vaut la peine. Le prix, maintenant, on va enchaîner avec le prix Alex Kovalev pour le personnage qui en fait le plus en faisant le moins. Il n'y en a pas beaucoup, des personnages qui sont pas beaucoup présents qui ont quand même un impact important. Il y a des personnages qui ne sont pas beaucoup là, qui ont un impact sur le film. À quel point? J'ai hâte de vous entendre là-dessus.
Daphne? Oui, moi, j'ai pris le camion, Mac, parce que c'est grâce à lui, en partie, que toute l'histoire se déroule. Ben, je dirais que c'est un mélange entre... En fait, c'est un mélange entre lui et les quatre voitures de les quatre voitures qu'il faut endormir, là. Bon, je dirais...
The Hells Angels.
The Hells Angels.
The Hells Angels. Cars.
Exactement, je dirais que ça ressemble à ça. Donc, lui, en plus, le camion... Mac, il se faisait un petit peu maltraiter comme les autres. Tu sais, il vivait un peu la même chose que les autres, mais bon, il se faisait maltraiter lui aussi. Il n'était pas vraiment respecté par McQueen, hein, qui disait « Ah oui, je vais rester réveillé avec toi toute la nuit. » Finalement, bon, il tient aucunement sa promesse, il s'endort. Et le camion aussi finit par s'endormir parce que il lui avait demandé de s'arrêter, mais McQueen a refusé. Donc, voilà. Ça commence avec ça. Ça commence avec... C'est l'erreur de McQueen. C'est son erreur personnelle. Si jamais il avait laissé dormir le camion, il n'en aurait pas été là. Mais bon, ça a enchaîné une évolution qui a été bénéfique. Mais donc, moi, j'ai choisi le camion parce que c'est lui qui s'endort finalement et permet une véritable évolution de la part de McQueen. Vraiment, c'est ça mon choix pour ce personnage-là, oui.
Ouais, c'est... Un excellent choix, rien à dire. Là-dessus, rien à ajouter, très bien dit. Je pourrais peut-être ajouter, en fait, tu dis, ouais, il se fait pas traiter avec beaucoup de respect, mais j'ai quand même l'impression au début, là, Mac est comme le seul ami, entre guillemets.
Oui, c'est son ami.
C'est le seul collègue qu'il respecte, ne serait-ce qu'un petit peu. Il ne prend pas en considération ses opinions et ses besoins, certes, mais il est quand même content de le voir et de la relation qu'il a avec lui là-dessus. Ouais. Donc, je pense qu'il a un impact, en fait, peut-être même encore plus important, pas juste sur l'histoire comme telle, mais sur le personnage de McQueen, qui est quand même content de voir Mac quand il débarque à Radiator Springs.
Ben, je te dirais, il l'aime, mais il le respectait pas autant que ce qu'il méritait.
Exact.
Et je pense que cette relation-là, après ça, peut changer une fois qu'il a vécu son évolution. Plus jamais il va faire quelque chose comme ça de ne pas laisser son collègue dormir. Hein. Il avait quand même vraiment besoin de sommeil. Puis c'est dangereux pour lui-même aussi de s'égarer sur la route. Il voyait tous les autres camions qui dormaient à côté. T'sais. Il était jaloux des autres camions qui pouvaient se reposer, sauf lui. Alors, il était un petit peu maltraité là, quand même.
Surtout qu'on s'entend que si son objectif, c'était d'arriver en Californie, une semaine avant tout le monde, ben, il aurait mieux été de prendre 8 heures de repos, mais ne serait-ce que 5 heures de repos et d'arriver 5 heures plus tard que d'arriver le jour de la course.
Mais ben, exactement.
En même temps, si Mac allait se coucher, ben, le film serait fini en 45 minutes. Donc, puis il n'y aurait pas eu d'histoire à compter. Donc.
D'où
oui, mais peu importe. On ne parle pas ici du point de vue du film, on parle du point de vue
humain, entre guillemets.
Exact.
Qui est exactement la raison pour laquelle j'ai pris ce personnage-là.
Thomas, toi?
Moi, j'ai été avec Fillmore, le genre de Winnebago. Avec le recul, je le trouvais hilarant parce que ça prend même du guts de mettre un personnage de stoner dans un film d'animation. Puis, honnêtement, avec le recul, maintenant que je comprends à quoi il sert, je trouve ça hilarant d'avoir eu ça dans un film de Pixar. Puis, c'est ça, je trouve ça vraiment drôle. Donc, il mérite une sélection, ça, moi.
Mais Thomas, c'est drôle que tu dises que tu comprends maintenant parce que moi aussi, je l'ai réécouté vraiment tantôt le film, puis il y a des trucs que je me disais, j'avais pas porté attention à ça quand j'avais 6 ans, tu sais, comme juste par exemple la scène où Sally, elle rentre pour la première fois là, au genre de procès là, de McQueen. Moi, cette scène-là, je la regardais tellement pas avec attention quand j'étais plus jeune. Là, je réalise à quel point c'est une bonne scène, tu sais, qui vraiment qui jette les bases pour tout ce qui va se passer après. Donc, le fait qu'elle décide que ça n'a pas de bon sens, que lui, il parte comme ça alors qu'il a tout brisé la route, que leur route, c'est ça leur raison de vivre, c'est ça leur gagne-pain, en fait, parce que sinon, il n'y a pas de clients. Déjà que les clients, il n'y en a pas tant que ça. Donc, y en a, pour ne pas dire aucun, mais bref, pas de route, pas de clients. C'est juste, non, c'est ça, c'est... J'ai porté plus attention à ça. Donc, il y a beaucoup de moments comme ça où je me dis si j'avais oublié ça ou avec le recul, je vois qu'en fait, c'était pour cette raison-là que ça c'était là. Donc, je trouve que c'est agréable de regarder un film comme ça des années après, puis d'avoir un autre regard.
Toutes les Pixar valent la peine d'être réécoutées quelques années plus tard.
C'est ça, écouter un film d'animation avec le recul, tu comprends tous ces genres de jokes qui te passaient de pied par-dessus la tête quand t'es. Quand t'étais enfant, là, Shrek, c'en est un qui en a plein. Là.
Mais le personnage de Stoner, j'avoue que ça c'est vrai qu'on le comprend mieux plus tard. Ouais. bien joué, Thomas.
Un très beau personnage que celui de Fillmore. Moi, je vais avoir un choix controversé pour ce prix-là. Je suis allé avec le Doc.
Ouais. Johan, c'est toujours toi qui dis qu'on prend des personnages trop présents. Sais.
Mais... Laissez-moi d'abord me justifier. Je prends le Doc pour la portion avant qu'on apprenne qui est le Hudson Hornet.
OK, c'est correct. On l'accepte.
Parce que, juste pour l'ensemble de l'œuvre aussi, à un moment donné, il devient beaucoup trop présent. Mais je considère que dans ce film-là, Tom McQueen, Mater et Sally, qui sont les personnages principaux comme tel, puis Doc est juste en dessous. Mais il est quand même extrêmement présent, surtout à partir du moment où il commence à coacher McQueen et à la fin, quand il devient son chef d'équipe. Mais le reste du moment avant, il y a toujours juste un côté mystérieux, vieux, sage à lui. Il y a quelque chose qui cloche. Puis, tu sais, on parle de revenir en arrière, de regarder les films avec rétrospective. À partir du moment où tu comprends que c'est le Hudson Hornet, toute la portion avant s'explique au complet.
Oui.
Du moment où, tu sais, comme il rentre, quand il rentre dans la cour d'appel, dès qu'il voit McQueen, il veut dehors. C'est comme, il y a une raison. Oui. Il y a quelque chose pour ça. Il sait quelque chose. Puis, clairement, il ne connaît pas McQueen. C'est pas pour ça. Il y a quelque chose d'autre. À un moment donné, il en parle un petit peu. Les voitures de course, tout ça. Puis tout au long, c'est comme clairement, il sait quelque chose, ce gars-là. Puis c'est juste un personnage tellement intéressant, intriguant. Puis une fois que tu vois le Hudson Hornet, OK, il sait c'est quoi, il comprend. Puis là,
il a vécu.
Tu sais, la course, justement, qu'il propose, c'est comme, le vieux, il va proposer une course à McQueen. Est-ce qu'il est fou, tout? Là, il part même pas. C'est comme, OK, pourquoi est-ce qu'il savait que McQueen allait se planter? C'est pas juste parce que c'est un vieux sage, là, ça prend autre chose. C'est vraiment, moi, c'est le personnage qui, chaque apparition qu'il faisait, je portais une coche d'attention de plus à la scène parce que je trouve le personnage ô combien important. Et on le souligne d'ailleurs, le dernier rôle en carrière de Paul Newman avant de décéder aussi, il faut le mentionner. Donc, personnage parfait que le Doc Hudson. À un moment donné, il devient très important dans le film. Mais je pense qu'avant ça, c'est juste... il est spécial, il est intéressant. Puis c'est pour cette portion-là du film que je l'ai choisi.
Moi, j'ajouterais à ça qu'effectivement, il pique notre curiosité dès le début. Et c'est juste tantôt que j'ai remarqué à quel point le regard qu'il fait quand il voit McQueen, il voit que c'est une auto de course, il est là, oh, OK, on le veut pas ici, il veut pas se rappeler de ça, lui, les courses, c'est comme son passé, il aime pas ce monde-là, il aime pas le côté... il n'aime pas ce que McQueen incarne et il l'aime encore moins quand il apprend à le connaître au début, tu sais. Vraiment, c'est de ça qu'il voulait fuir depuis qu'il est parti. Il a pas vraiment voulu fuir parce que c'est un peu fait passer, mais... C'est de ça qu'il voulait s'éloigner, justement, avec l'affiche. Il dit, je me rappelle à chaque fois quand je vois cette affiche-là que je ne veux jamais retourner dans ce monde-là.
Ouais.
Donc, ça, c'est effectivement, ce personnage-là pique la curiosité. On le sent qu'il cache quelque chose depuis le début. On le sent dans chaque parole, comme tu le dis, dans chaque apparition. Vraiment, je trouve que c'est un choix intéressant. T'as triché un peu, Mais on va l'accepter avec la justification que tu nous as donnée quand même. Mais là, à chaque fois, tout le temps, oh, vous prenez des trucs trop présents, des personnages trop présents. Avec Spinning Out, t'avais pris la sœur qui était vraiment... Oh non, c'était pas pour celui-là.
Non, j'avais pris Dasha pour le...
J'avais pris Dasha, mais qui était vraiment présente beaucoup. Qui était vraiment
présente. Pas tant que ça, le comparer aux autres personnages.
Mais bon, je te le donne, c'était difficile de choisir pour Spinning Out. Mais bon, pour ce film-là, il y a une bonne justification, alors on peut comprendre.
Écoute, et moi, je refuse quand même, choisir un autre.
Non.
Je pense que c'est moi qui ai fait le choix le plus
ouais, ben, je pense Mac c'est vraiment le meilleur choix là-dessus. Ouais. Après ça, on va pas prendre tous Mac parce que.
Ben je savais que les gens. Moi je pensais que vous alliez tous prendre ça, donc je me suis dit bon ben je risque de ne pas être original, mais non.
En tout cas, c'est non, mais ben, Mac c'est le bon choix. Sinon, écoute, t'aurais pu prendre le shérif.
Le shérif aussi, il a le même genre d'impact.
Le shérif aurait été un bon choix. Moi, c'était le premier qui m'est venu en tête pour ce prix-là. Mais finalement, j'ai été avec le doc, en tout cas.
Mais je dirais qu'effectivement, le shérif, c'est un peu le même genre de rôle que Mac, parce que c'est lui qui arrête McQueen, c'est lui qui l'amène dans la ville. Donc, à ce moment-là, je pourrais dire qu'effectivement, ça ressemble un petit peu au rôle de Mac.
Le prix Brendan Gallagher pour la peste du film maintenant.
On l'a facile pour celle-là.
On a-tu besoin de. On va en parler du personnage parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais je pense qu'on a tous le même.
Écoute.
Je pense que oui. La fameuse voiture.
La plus grosse peste de l'histoire des films d'animation de Pixar.
Moi.
Chick X.
Ah non, moi
je dirais. Je dirais celui qui incarne le plus mauvais esprit sportif. Moi, je le dirais comme ça.
Moi, j'ai pris la moissonneuse batteuse.
Ah, non, mais ça, c'était...
C'est une blague. Ah. Pour vrai, en même temps, j'ai été tenté encore une fois de prendre Doc au début du film.
Oui.
Non, mais il est pas... Non, mais c'est pas la plus grande pièce du film.
Non, mais juste personnage... En termes de personnage désagréable, juste parce que je me suis dit, OK, c'est sûr que tout le monde prend Chick.
Ben oui, mais moi aussi,
est-ce qu'il y a une autre option? Puis la seule option que je trouvais, c'était Doc dans la première heure du film.
Ben, vois-tu, moi, j'ai failli dire McQueen. Il est tellement détestable avec tout le monde au début.
Oui, exactement. Mais c'est la même chose. C'est à la fin du film, tu adores tous les personnages.
Sauf Chick.
Quel vidange, sérieux. En même temps, je le comprends. Tu sais, c'est... Toute sa carrière, il a fini deuxième. Il est tanné, il est fru, mais même à ça...
Non, mais il ne mérite pas. Il ne mérite pas la victoire. Il n'a pas une attitude de gagnant.
Il n'y a rien. Il n'y a rien pour lui.
Genre, j'essaie de trouver un comparatif dans le monde du sport de Chick X. Puis, il est tellement détestable que j'en trouve pas. Même les plus grosses pestes dans le monde du sport avaient certaines qualités. Lui, il en a juste...
Ben, il est quand même un bon courseur.
Ouais, sauf qu'il
triche. Mais il est quand même bon. Il est quand même dans les trois reconnus.
Ouais,
donc...
vrai, il est pas mauvais. Il a quand même fini deuxième.
Il est bon.
À
il est
chaque
bon.
Année. C'est une bonne voiture. Mais c'est une bonne voiture parce que justement, il cause des carambolages monstres qui éliminent littéralement toutes les autres voitures en arrière de lui. C'est sûr que c'est pas fameux là-dessus.
Effectivement.
Regarde, sérieusement, Chick, quel nul. Pour vrai, c'est... Personnage parfait. C'est antagoniste absolument parfait.
Oui.
Ça, on va se le dire. Personnage très bien écrit, très caricaturé, mais exécuté à la perfection. Ça, c'est sûr
mais
et certain.
Mais quelle vidange!
Mais une véritable vidange dans le cadre de ce prix-là pour le personnage le plus désagréable, Chick Hicks. Facilement. Chick qui revient dans le 3, lui également. Pas ouais, comme voiture de course, par contre. Ça, c'est vraiment trop. Il est là dans un autre rôle. Ouais, intéressant. Intéressant, le Chick. Rien à dire. Quelqu'un a ajouté? Quelqu'un veut ajouter quelque chose? À part le fait, bon, on pourrait peut-être dire que sa moustache est vraiment exagérée aussi.
ça
l'aide pas.
Sa moustache est très NASCAR. Non?
Ouais, ben. C'est du NASCAR. Hein.
C'est ça.
Bon, on va finir avec le prix Sommet maintenant. Le prix Sommet, je suis allé avec un acteur du film. J'ai pris Larry the Cable Guy qui fait la voix de Mater.
J'adore, moi aussi, effectivement.
Larry the Cable Guy, bon, comédien quand même assez connu là, au niveau des États-Unis, a joué dans une couple de films un petit peu comiques, un petit peu niaiseux, mais il n'y a rien qui bat. Tant qu'à moi, Mater, c'est la meilleure performance dans ce film-là.
Mais sa voix est géniale. Sa voix, elle est absolument géniale.
C'est du voice acting. Il n'y a pas de...
Non, je sais bien,
Il n'y a pas de capture de mouvement dans ce film-là, mais Larry the Cable Guy est absolument impeccable dans ce rôle-là et donne au personnage de Mater un charisme et un charme. Déjà, le personnage l'avait, mais avec la performance de cet acteur-là, ça passe à un tout autre niveau et qui n'aime pas Mater? En toute honnêteté, Mater est probablement le personnage de dessin animé le plus universellement apprécié par la communauté.
Tout le monde aime ce personnage-là, oui.
Moi, j'ai un hot take. Dans un, il est excellent. Il y a deux, m'a fait diminuer beaucoup mon appréciation.
Moi, je l'ai bien aimé dans le 2 aussi. Moi, j'ai aimé parce que je trouve que, justement, dans le deuxième, il garde sa personnalité quand même. Donc, moi, je l'ai aimé dans le 2. Je trouve que, justement, au contraire, il amène un plus au deuxième film. Il amène un plus comme parce que c'est comme un peu l'inverse de McQueen. Il reste lui-même, peu importe tous les rôles qu'on lui donne. Donc, moi, je trouve que c'est... Moi, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve qu'au contraire, Mater ajoute quelque chose au deuxième film. Et ça fait même... C'est ce que j'aime dans le deuxième film. C'est vraiment...
Mais je ne sais pas si je dis ça à cause que quand j'ai été le voir, j'étais rendu un pré-ado blasé. Là, le deuxième...
Peut-être!
6 ans après le premier film. Donc, moi, l'appeal de Mater, il est encore là, mais... Il était beaucoup moins là, disons, là, comme ça. Mais dans le premier film, Mater est excellent.
Mais pour revenir à ton choix, Johan, moi, je dirais qu'ils ont dû tellement avoir du plaisir en enregistrant ce film-là. C'est ce que j'imagine. Quand j'entends le film au complet, j'ai l'impression que vraiment, ça a été un film fait dans la joie. Mmh. C'est vraiment l'impression que j'ai. De la part, surtout de l'acteur de Mater, qui a vraiment dû aimer faire ce personnage-là.
Oui, vraiment, pour moi, c'est la performance du film, encore une fois. Puis c'est un personnage tellement bien exécuté, bien écrit aussi. Puis la rendition de Larry l'amène juste à un autre niveau. Donc, pour moi, c'est à cet acteur-là que je donne le prix sommet. Thomas, est-ce que tu avais une personne, est-ce que tu avais un concept?
J'ai un concept. Ça risque aussi d'être controversé, mais c'est un choix très personnel, OK? Mais, d'après moi, c'est dans le sommet des films Pixar des années 2000. Cars, vraiment, je l'ai dit en ouverture d'émission, c'est un de mes films préférés de mon enfance. Puis, juste réécouter, j'ai adoré ça, puis c'est un des films que j'apprécie le plus. Donc, c'est ça.
Ben, écoute. Ouais, peut-être.
C'est vrai que c'est un film qui a vraiment eu beaucoup, beaucoup de succès, qui a été apprécié autant chez les gars que chez les filles. Moi, je trouve que c'est un bon choix quand même, effectivement. C'est vrai que c'est un sommet, surtout qu'ils ont quand même fait trois films en tout. Alors, ça témoigne quand même d'un certain succès quand ils peuvent en faire une trilogie. Mais
il y en a eu des bons là, dans cette époque-là aussi. Les Incroyables, Nemo, Monstre Incorporé, Wall-E.
Spirit. C'est un petit peu avant quand même.
Non, Spirit, c'est un peu plus vieux. Mais quand même, effectivement, je regarde juste rapidement la liste là, des Pixar des années 2000. Effectivement, là, Monstre Incorporé, Nemo, Les Incroyables sont assez solides, mais Cars est là. Fait que je te le donne. Peut-être, écoute, ça demanderait un débat plus long sur quel est vraiment le meilleur Pixar des années 2000.
On fera un sondage de Club École sur ça, Johan.
Mais, c'est bon.
Mais Cars est assurément... Cars est là.
Cars est dans la partie, on pourrait le dire de cette façon-là.
Exactement. Daphné, pour toi, qu'est-ce qui remporte le prix sommet?
Mais moi, j'ai été avec les courses de NASCAR, tout simplement. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas informé à propos des courses de NASCAR, mais je n'ai jamais vu de film d'animation sur les courses de NASCAR.
Ah, des films même d'animation.
Mais même des films sur des courses de NASCAR, si j'en ai vu, ils ne sont pas autant connus. Parce que celui-là, vraiment, moi, c'est le premier auquel je pense. Et d'ailleurs, quand on faisait l'enregistrement de notre nouveau podcast à tout à l'heure, j'avais mentionné à quel point ça me faisait penser à Cars. Alors moi, j'associe vraiment Cars aux courses de NASCAR. Comme quand je pense aux courses de NASCAR, je pense à Cars. Alors, dans ma tête à moi, c'est vraiment ça mon prix sommet. C'est vraiment ça que ça incarne. Je n'ai pas vu d'autres films non plus dans ma vie concernant les courses de NASCAR. Peut-être que c'est simplement moi qui n'ai...
Il y a Herbie qui est techniquement un film de NASCAR, mais il y a surtout Talladega Nights avec Will Ferrell et Sacha Baron Cohen qui est probablement le film de NASCAR, peut-être le plus connu, mais honnêtement, t'sais, je regarde ça juste rapidement, si je sors une liste là, rapide des films de NASCAR. Cars est là, c'est sûr et certain, et avec le succès que ça a eu, surtout au niveau chez les jeunes.
Chez les jeunes,
c'est sûr et certain. Le problème, moi, je te dirais, avec Cars, c'est que le côté sport n'est pas ce qui est mis le plus en avant.
Ouais.
Mais ça reste un film de NASCAR.
En fait, je dirais que c'est l'esprit sportif, l'esprit humain,
C'est les valeurs sportives.
Oui, absolument.
Les valeurs qui sont mises
le
à l'avant, c'est ce qui
est beau. Le sport comme tel occupe une petite place dans ce film-là quand même.
Oui,
Sharknado 3 est apparemment considéré comme un film de NASCAR.
Sharknado? OK.
On va voir que quelqu'un me l'explique, celle-là.
Oui, moi aussi, je comprends pas trop, mais bon. On peut toujours être étonné. Mais non, moi, le premier film de NASCAR auquel je pense, c'est vraiment celui-là. Alors, dans ma tête, je pense qu'il mérite le prix sommet quand même. Surtout avec le succès que ça l'a eu. Tout le monde le connaît, ce film-là. Je connais personne qui ne sait pas c'est quoi.
Je crois que la majorité des gens... En fait, les gens qui ne s'intéressent pas nécessairement aux courses automobiles n'auront probablement pas vu Talladega Nights.
Exactement.
Mais vont avoir vu Cars. Donc, je pense que, tu sais, il est peut-être connu overall, mais les puristes du NASCAR vont te dire que c'est pas le meilleur. Mais je suis d'accord que ça se défend très bien.
Moi, c'est pour ça que je donne le prix, c'est vraiment parce que tout le monde l'a vu. Tu sais, c'est pas. C'est vraiment le film de NASCAR que tout le monde a vu, peu importe la connaissance, dont moi qui n'ai pas encore tout à fait habitué avec ce sujet-là, avec les courses de NASCAR. Alors vraiment, c'est pour ça que j'ai donné le prix à Cars. Qui a vraiment bien fonctionné. Qui a vraiment eu beaucoup de succès.
Okay. Absolument. Sur ce, c'est ce qui conclut cet épisode spécial de reprise vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et on vous recommande Cars 2 et 3 si vous ne l'avez pas écouté. Manifestement, on vient d'apprendre que ce n'est pas tout le monde qui ne serait-ce que connaissait l'existence du troisième film. Les trois sont disponibles sur Disney+. Si vous avez la plateforme, ça s'écoute très facilement et très bien. Peut-être qu'on va en reparler des prochains dans une autre prise vidéo, mais non. Comme on a mentionné tantôt, le 2 n'est pas vraiment un film de course, donc ça le disqualifie pour reprise vidéo comme tel. Mais bref, laissez-nous savoir ce que vous en pensez, si vous appréciez. On est toujours heureux de discuter de certains films comme ça et des films qui nous rappellent notre enfance également, comme Cars. Ça fait toujours du bien d'en parler. Thomas Daphné, merci beaucoup pour votre participation à reprise vidéo aujourd'hui. Très, très agréable de finir la journée en votre compagnie pour parler de ce film. Et à la maison, on vous souhaite une bonne fin de semaine parce qu'on a une autre reprise vidéo qui sort à la case horaire habituelle samedi. On peut vous l'annoncer tout de suite. On va faire un film de lutte. Ça s'appelle Fighting with My Family. C'est l'histoire... inspirée, en fait, et grandement romancée, mais surtout inspirée de l'histoire vraie de Paige, qui était une lutteuse sur le circuit de la WWE. Donc, un film très bon, honnêtement. Donc, je vous invite tout de suite à aller le regarder avant que l'épisode sorte. Comme ça, il n'y aura pas de divulgateur pour vous lors de cet épisode. Donc, à vous tous à la maison, portez-vous bien. on se reparle samedi dans un nouvel épisode de Reprise vidéo. D'ici là, au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière et je vous souhaite une excellente fin de journée.